aussi. You know? Et ça change toute une perspective. Écoutez, c'était Namasté Whisky Café, où est-ce que tout peut se passer avec Miss VVV. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Je vous aime. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres tips pour de lifestyle, pour avoir une meilleure vie, pour être plus content, plus heureux. J'espère que je vous ai fait crack and smile. Merci Radio Centre-Ville. Merci à tous mes auditeurs. Merci tout le monde qui est avec moi. Merci Nestor d'avoir été avec moi toutes ces années. Puis j'espère qu'on va être ensemble pour plein d'autres années encore. Merci de m'avoir encouragé dans tous mes projets. Et puis, te quiero mucho, flaco. Et puis, sur ce, ben, je vais vous laisser avec une petite track. Question de c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez sages, sinon essayez de l'être. C'est l'intention qui compte. Je vous laisse avec Vanille. Et puis, c'était Namasté Whisky et Café sur les ondes de Radio Centre-Ville. Merci, Radio Centre-Ville. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez sages, sinon essayez de l'être. C'est l'intention qui compte. C'est Miss VVV qui était avec vous. Je vous aime. Bye. Mouah.
Vous êtes à Montréal-Nord, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Avez-vous déjà visité le marché Béda? Au 10 539 boulevard B9, au centre commercial Forêt. Le marché Béda, là où la diversité et la fraîcheur se dégustent à chaque produit. Venez y profiter de nos produits. Le marché Béda, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Le marché Béda, venez vivre une véritable symphonie de saveurs. Le marché Béda, 10 539 boulevard B9, au centre commercial Forêt, 514-999-2191.
المرحلة الثانية من شقق نوريا اكتملت الآن. اكتشف المشروع الفريد للشقق الإيجارية الجديدة والمعاصرة في قلب منطقة سان لوران. سترى بصيغتها الشاملة مواقف السيارات الداخلية ومسبح السباحة ومساحات التخزين المتعددة والمناطق المشتركة بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمتاجر. من السهل العيش مع نوريا ويسهل حبها. قم بزيارتنا nouriaapartments.com.
يوم الأحد 20 أكتوبر من الساعة 1 حتى 4 بعد الظهر، الأبواب مفتوحة في إقامة لاتو الواقع في بلدية سان لوران، عضو هوريزون. تعالوا واكتشفوا بيئة آمنة ومريحة تتجاوز توقعاتكم. horizonresidence.com.
Tu penses qu'animer à la radio, c'est pour les autres puis que c'est inaccessible. Ben, c'est tout le contraire. La radio a besoin de relève. Elle cherche du monde allumé qui a des choses à dire. Ceux que tu écoutes actuellement sont posés les mêmes questions que toi.
Ah ouais?
Mais ils ont agi. Ils ont choisi une formation. Ils ont appris le métier. Et aujourd'hui, ils sont en onde. Le chemin le plus court entre chez toi et la radio, c'est le Collège Radio-Télévision de Québec. Un cours pratique en deux sessions. Toutes les informations sont au crtq.ca.
Vous voulez manger un bon mets créole, j'en mange la caille, Resto Cricrac est la place. Vous y trouverez une nourriture créole de qualité supérieure, comme du lambi, poulet boucané, dinde, griot, légumes, tasseau de cabri, tasseau de bœuf, poisson, pâté cordé, etc. Nous sommes les champions du service traiteur. Pour peu importe l'événement que vous organisez, passez nous voir dès maintenant au 91 85 boulevard Saint-Michel, près de Louvain. Nous sommes ouverts tous les jours, même les dimanches. Téléphone 514-328-6166. Venez et voyez que Cricrac est vraiment bon.
Radio Centre-Ville appelle, rappelle, interpelle. Et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Couleur, ambiance, variété, diversité. Au cœur du Centre-Ville.
Bon début d'après-midi à tout le monde. Ben, c'est le retour à la maison Tamazra FM Info. Alors jusqu'à 16h, un petit tour de l'actualité locale et internationale. Et on espère bien vous accompagner avec le choix des nouvelles.
حواج مسن كيذ نتوذر نتزمرت نغنتي نوفقا
أشيرانس في أشيرانس مالادي أشيرانس فواياج
تبغيضة تسيوضة ديس نفار نتوسنا غي وراويش
نار بروجي ديتيد بور انفان
ويني مقارن
R-E-E-E
ثوغض ناثكري ضخام ثوغض ناثكري تاكاروس أثقد شد غار يمانيك نغض صعيد ثاكبانيت سيولتت يوقداش وسنكيذ هاني ظاهر أو ندينا ذي نسنكيذ يكون يقول من سومي جرزن غارو طن تليفون
488-078-0121
438-878 إلم يون سين يون
نوتير أزاليس أمطبيف ماتر خالد العربي شريف نوتير إي كونسيي أثاي إلمندنون وكنا ونسبد إسوفار إلى قن ويتقدرن القانون أما لي تيستامون ماندا دو بروتيكسيون كونترا دو مارياج كونترا مارثا مي خامل نون نغ لي كونترا تكوباني نون ماتر خالد العربي شريف نوتير فوزوفر دي سيرفيس جوريديك بروفيسيونيل ستقفيليث أما ذي البيروي نسنا بار فيديو كونفيرونس ماتر خالد العربي شريف سيولتاسر 545-21-78 54-545-21-78 نغروح السيت وابينس www.notairklc.com السنة لن المحذران ثو يرقضى
Pour toute réparation et branchement électrique, résidentiel ou bien commercial, Ferret Électrique fera l'affaire. N'hésitez pas à nous contacter au 514-561-3712 ou bien nous écrire à l'adresse suivante ferretelectrique@gmail.com. Ferret électrique, prix, habilité et sécurité.
Et c'est votre magazine de retour à la maison, autour et au cœur de l'actualité de la communauté nord-africaine. Tamazra FM Info, ce nouveau rendez-vous est à la deuxième semaine de, ce début de saison, de la première saison. Et on espère répondre un petit peu à vos attentes, aux nouvelles que vous voulez entendre, que vous n'avez pas l'habitude de trouver ailleurs, ou vous devez chercher ailleurs, qui n'est pas encore vérifié cette nouvelle-là. Voilà, alors jusqu'à 16h, on va faire un petit peu le tour et on va regarder les titres sur lesquels on va vous en parler aujourd'hui. Les titres de l'édition du 10 octobre 2024, ce jeudi. On va parler du gouvernement québécois qui veut légiférer pour limiter la venue d'étudiants étrangers. On va parler de la violence dans les écoles. Les employés de soutien lancent un appel au secours. On va vous donner des nouvelles aussi sur, bien sûr, le recrutement de jeunes par les gangs criminels. Le Parti québécois veut contrer ça avec une loi et en appelant à une commission parlementaire. Au niveau culturel, on va parler de le retour, la saison du sport national qui reprend, c'était le hockey. Alors, on va parler du Canadien qui a fait son entrée hier. Ça, c'était plutôt le sport. Ça, c'est le sport. Mais je voulais parler de la culture et prix Nobel de littérature qui a été décerné à une écrivaine. On va vous parler de ça. Eh bien oui, ce qui retient l'actualité aujourd'hui, c'est vraiment cet ouragan qui a attaqué le bout des États-Unis, hein, la Floride. Et on dit que c'est un ouragan qui porte la signature du changement climatique. On vous a, c'est sûr que les nouvelles, vous les avez tous sur les grands réseaux, où est-ce que c'est rendu, les dégâts, il y a même des morts. On a allé chercher un reportage qui parle un petit peu. Comment expliquer un petit peu cette évolution et comment fonctionne cet ouragan et comment il se déploie de l'eau vers le sol. On écoute ce reportage.
Salut, ici Alexis Delancerre. Jeudi 10 octobre 2024, bienvenue à Ça s'explique. Après Hélène, place à Milton. En l'espace d'une quinzaine de jours à peine, le sud des États-Unis est frappé de plein fouet par un deuxième ouragan de force majeure. Déjà, au moment d'enregistrer cet épisode, alors que Milton se trouve à quelques heures de son arrivée sur les côtes de la Floride, son onde de tempête maximale anticipée est de 4,5 mètres et il charrie des vents à 260 km/h. Et si les tendances actuelles se maintiennent, les ouragans d'une telle puissance sont appelés à être plus nombreux. Notre question, que nous apprennent Hélène et Milton sur l'avenir des ouragans? Notre invité?
Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en climat et environnement à Radio-Canada.
Et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité. Une question à la fois.
You got to remember, this was an area hit very hard by Helene. Here we are, more than a week later, you still got families who are pulling out the drywall, still taking out all the furniture that was ruined and still trying to get rid of it. Same situation next door, the house after that, block after block, people still cleaning up right now while preparing for this next storm, which could be worse out here.
J'arrête pas de penser ces jours-ci à la situation, aux situations que vivent les personnes sur place dans le sud des États-Unis, comme on le décrivait dans cet extrait d'un journaliste de ABC. Les gens qui sont encore en train de gérer les dégâts laissés par Hélène et puis en même temps doivent se préparer à l'arrivée de Milton. Salut Étienne.
Bonjour Alexis.
T'en as couvert un et un autre des ouragans par le passé sur le terrain. On sait que pour les journalistes, c'est une situation assez singulière, encore plus pour les personnes qui en subissent les contre-coups. Je me trompe pas? Quand je dis que j'ai l'impression qu'il y a plus d'ouragans que par le passé?
C'est une impression qu'on a, sauf que les scientifiques n'arrivent pas à répondre à cette question-là de façon concluante. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a davantage. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que c'est un phénomène médiatique? Peut-être qu'on en parle davantage. Pour ce qui est du nombre d'ouragans, mm-hmm. la science n'est pas tout à fait concluante là-dessus. Ce qu'on sait, par contre, Alexis, c'est qu'il y a plus d'ouragans plus puissants. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'il y a plus d'ouragans, parce que, au fond, chacun ou presque chacun des ouragans qui nous arrivent est plus puissant que celui qui a précédé. Et donc, les ouragans plus puissants sont plus fréquents. Ça, la science, okay. vraiment, y voit vraiment une tendance. Et c'est grave, parce qu'évidemment, un ouragan qui est plus puissant va potentiellement faire plus de dommages là où il va toucher terre et là où il va poursuivre son chemin sur la Terre.
Donc, si je comprends bien, à ce stade-ci, on ne sait pas nécessairement s'il y a plus d'ouragans, mais ce qu'on sait, c'est que la proportion d'ouragans de très forte puissance, elle est accrue sur le plan climatique. Comment on l'explique?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais le principal facteur. Je dirais que le dénominateur commun pour mesurer les effets des changements climatiques sur les ouragans, c'est le réchauffement des eaux.
Okay.
La semaine dernière, il y a l'Observatoire européen Copernicus qui est arrivé avec de toutes nouvelles données qui nous disaient que le rythme de réchauffement des océans a doublé depuis 2005. C'est-à-dire que les océans se réchauffent plus vite depuis à peu près une vingtaine d'années que la période précédente. Donc, ça s'accélère finalement, le réchauffement. Et ça, c'est partout, le Pacifique, l'Atlantique, la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique où ont lieu beaucoup d'ouragans. Et donc, le réchauffement des océans, c'est vraiment le dénominateur commun parce que l'ouragan, la chaleur de l'eau, c'est vraiment son carburant. C'est comme ça qu'il va aller chercher son énergie. L'ouragan, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme cette énergie qui est la chaleur en vent et en mouvement. Et c'est comme ça qu'il se nourrit et puis qu'il prend de la puissance.
Oui, c'est ça. Et qu'il passe à des catégories 3, 4 et même 5, comme c'est le cas avec Milton.
Tout à fait. Donc, il y a plus d'ouragans plus puissants. Je disais, par exemple, au cours des 8 dernières années, donc depuis 2017, il y a eu 8 ouragans de catégorie 4 et 5, donc très puissants. Probablement qu'on va avoir un 9e là, avec Milton. Et ça, 8 ouragans, c'est autant qu'il y en a eu dans les 57 années précédentes.
Ouf.
Donc, c'est comme ça que les experts, finalement, mesurent les tendances. C'est ça qui est très important.
Oui.
C'est pas un ouragan très puissant pour lequel on peut dire c'est les changements climatiques. C'est vraiment la tendance qu'on observe. Et pour ce qui est de la puissance des ouragans, il y a une tendance qui semble assez claire.
We want to begin with hurricane specialist John Morales. John, now this monster of a hurricane is a category 5?
Yes, that news just came out right now, and it's certainly, it's just an incredible, incredible, incredible hurricane. It has dropped. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific.
Un moment de télé assez particulier sur les ondes de NBC, alors qu'un météorologue, vous l'avez entendu, prend une pause parce qu'il est tout simplement pris par l'émotion. L'émotion générée par le constat qu'il fait, c'est-à-dire celui de la puissance inouïe de cet ouragan Milton qui s'approche du littoral floridien. Étienne, tout, si je comprends bien, découle du fait que les eaux de surface des océans se réchauffent. Poursuivons dans les conséquences que tout ça entraîne. Le fait de passer d'une catégorie 3, 4 à 5, on a déjà vu ça par le passé, mais la vitesse à laquelle s'effectue cette intensification, cette montée en puissance, ça aussi c'est une conséquence de ce phénomène que tu nous décrivais.
Oui, tout à fait. Donc je le disais, l'eau chaude dans ce cas-ci du golfe du Mexique, c'est le carburant de l'ouragan, mais ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est que les ouragans augmentent très rapidement en intensité. Par exemple, il y a 2 semaines, l'ouragan Helene est passé de catégorie 1 à catégorie 4 en moins de 24 heures. Ça,
c'est fou.
Veut dire que les vents en moins d'une journée ont augmenté de 60 kilomètres à l'heure.
Inouï.
Helene, c'était grave parce que cette accélération-là est arrivée seulement 24 heures avant de toucher Terre. Donc, ça a complètement bousillé l'organisation sur la Terre pour l'arrivée de l'ouragan. Pour ce qui est de l'ouragan Milton, c'est phénoménal, en fait, l'ouragan Milton. L'ouragan Milton est passé de catégorie 1 à catégorie 5 en 25 heures à peine. Donc, les vents ont augmenté de 145 kilomètres à l'heure en à peine une journée. Et ça, c'est un phénomène donc que les experts constatent de plus en plus. Et si ce n'était qu'un phénomène à observer, ce serait bien. Sauf que quand les ouragans changent complètement de catégorie en peu de temps, ça complique grandement la tâche des autorités qui essaient d'organiser les choses sur Terre. Alors, si l'ouragan, comme le cas d'Helene, à peine quelques heures avant d'arriver, il décuple sa puissance, eh bien, il est trop tard pour dire à la population, vous devez évacuer maintenant. Vous avez dit de pas évacuer, maintenant vous devez le faire. Et donc, ça rend ça très complexe. Et à chaque fois, Alexis, aussi que le vent augmente. Évidemment, ça a l'air évident, mais ça augmente les dégâts. Les experts calculent que pour chaque degré d'augmentation de l'eau, donc dans ce cas-ci le golfe du Mexique, ça augmente la puissance des vents dans l'ouragan de 5%. Alors, ça peut avoir l'air anodin comme ça,
mais, ce n'est pas...
mais la puissance des vents va faire en sorte que les dégâts seront exponentiels. Donc, un ouragan de catégorie 2 fait 10 fois plus de dégâts qu'un ouragan de catégorie 1. Et catégorie 4, c'est 80% fois de plus de dégâts. Donc, on voit bien que ça cause beaucoup de problèmes pour les êtres humains qui vivent sur les littoraux et même plus loin dans les terres.
Ben voilà, et c'est exponentiel, comme tu le dis, tu le décris si bien. Puis ça, on ne fait que s'attarder jusqu'à présent à la question de la puissance des vents. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a ensuite la pluie, les pluies abondantes et les conséquences que ça entraîne.
Des conteneurs qui flottent, celui-ci soulevé par la puissance des éléments, des maisons inaccessibles, de la boue partout. La Caroline du Nord, état le plus touché.
Selon le lieu où vous vous trouvez, cette tempête sans précédent a déversé entre 25 et 74 cm d'eau sur les montagnes, provoquant des inondations et des écoulements de boue meurtriers.
La journaliste de TV5 Monde qui décrit bien la situation sur le terrain, description à laquelle s'ajoutent les propos de Ray Cooper, gouverneur de la Caroline du Nord, qui se retrouve pris avec une situation assez difficile à gérer. Étienne, parlons de l'abondance des pluies qui accompagnent nécessairement l'arrivée de ces ouragans. Ça aussi, c'est à la hausse. Que nous disent les tendances actuelles?
Alors ça, c'est encore, ça découle du réchauffement des eaux où naissent les ouragans. Parce que, donc Alexis, on voit, tu parlais des tendances, on voit que les ouragans transportent plus d'eau et déverse plus d'eau. Pourquoi? Parce que, donc, c'est ça que je disais, le fait que l'eau soit de plus en plus chaude, ça fait en sorte que dans l'ouragan, il y a plus d'humidité relative. Cette humidité relative va augmenter la quantité de vapeur d'eau qui est dans l'ouragan. Et quand cette vapeur se condense, comme dans les nuages juste avant la pluie, hein, c'est de la vapeur d'eau qui se condense puis qui tombe en pluie. C'est la même chose dans l'ouragan. Quand cette vapeur d'eau se condense, eh bien, la pluie tombe. Plus il y a de vapeur d'eau, plus il y a de pluie dans l'ouragan qui va tomber, donc, et plus l'eau est chaude, plus il y a de vapeur d'eau, plus il y aura de pluie. Ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène avec les eaux de plus en plus chaudes, c'est que cette vapeur d'eau, elle emmagasine cette chaleur supplémentaire, si on veut, et quand elle condense et qu'elle tombe en pluie, elle laisse partir cette chaleur, et cette chaleur supplémentaire alimente d'autant plus l'ouragan qui est déjà en cours, ce qui fait que l'ouragan peut survivre plus longtemps. C'est ce qu'on a vu avec l'ouragan Hélène, où on a vu donc d'immenses inondations, des pluies torrentielles à 800 kilomètres du point d'entrée de l'ouragan, donc en Caroline du Nord, en plein milieu des montagnes, dans les Appalaches, à 500 kilomètres de la côte atlantique. Ces gens-là n'avaient vraiment aucune idée qu'ils étaient à risque d'un ouragan comme ça. Et donc, l'ouragan a tellement de pluie à décharger que va poursuivre donc son chemin comme ça, avec la force de la chaleur, va poursuivre son chemin longtemps et va déverser de la pluie comme ça. En 2017, l'ouragan Harvey au Texas, l'ouragan avait stagné au-dessus du Texas et a déversé 1,5 mètre de pluie sur le Texas. Donc, la situation était critique. Houston était vraiment inondée. Donc, ça, c'est vraiment une tendance qu'on observe.
Toujours à l'écoute de Samazra FM Info, le retour à la maison autour de l'actualité, bien sûr, montréalaise et de l'actualité internationale et tout particulièrement celle de la communauté nord-africaine. Alors, juste parlons de l'ouragan. Ça a été l'ouragan Milton qui a fait 10 morts, selon le secrétaire à la sécurité intérieure. Plus de 3 400 000 foyers sont privés d'électricité. Sur le littoral, les conditions sont dangereuses.
Yeah.
عبد شايف يتبوس يدوب يوم الحملة هم يسجدوا عبد شايف يتبوس يدوب يوم الحملة
Si on revient à la météo locale, bah, on va rester un petit peu pour donner quelques informations. Ce qui est formidable, si on regarde la carte, de, que ce soit de Microsoft ou de la carte météorologique, là, on voit la force du vent actuellement qui est entre 70 et 76 km. Ça, c'est dans l'océan. Alors, c'est sûr que ça ralentit une fois que c'est rendu. Et on voit la côte est de toute la Floride et qui, ça remonte jusqu'à presque la Caroline du Nord. Alors, c'est sûr que ça va être dur pour les habitants de cette région-là. Alors, pour Montréal et ses environs, alors le ciel sera en grande partie nuageux. La température maximale sera de 11, mais on pourra ressentir 8. Hein. Ça commence à baisser. Si on parle du vent, c'est à 23 km/h. Alors, qu'est-ce qui s'annonce? Ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, ça va être couvert avec un 16 degrés centigrade. Et puis, on va ressentir comme un 8 degrés au courant de la journée de demain, vendredi 11.
جمسن كيدن توذر انتزمار نان تنوفقا
أشيرانس في أشيرانس مالادي أشيرانس بواياج
تبغيضة تسيوضة دي سنفار انتوسنا غيواراويش
نار بروجي ديتيد بور انفان
ويني مقارن
R-E-E-E
ثوغضنا تخيري دخام ثوغضنا تخيري تاكاروس أتقد شدغار يماني نار تصعيد ثاكباني تسيولتت يوقداش وسنكيد هاني ظاهر أو ندينا ذي نسنكيد يكون يولمن سومي جرزن غار وطن تليفون
4-8-8-7-8-0-1-2-1
4-3-8-8-7-8-0-1-2-1 إلم يون سين يون
النوتير أزاليس أمطبيف ماتر خالد العربي شريف نوتير إي كونسيي أثاي إلمن دنون وكنا ونسود إسوفار إلا قن ويتقدرن القانون أما لي تيستامون ماندا دو بروتيكسيون كونترا دو مارياج كونترا مارسا ميخام نون نغ لكونترا تكوباني نون ماتر خالد العربي شريف نوتير وزوفر دي سيرفيس جوريديك بروفيسيونيل ستقفيليس أما ذي البروينس نغ بار فيديو كونفرنس ماتر خالد العربي شريف سيولتاسر 545 21 78 545 21 78. نغروح السيت ويبينس www.notairklc.com السنة المحذران ثو يرقضى.
Pour toute réparation et branchement électrique, résidentiel ou bien commercial, Ferret Électrique fera l'affaire. N'hésitez pas à nous contacter au 514-561-3712 ou bien nous écrire à l'adresse suivante ferretelectrique@gmail.com. Ferret Électrique, prix, habilité et sécurité.
Vous êtes toujours à l'écoute de Samazra FM Info, votre petit retour à la maison pour ce 10 octobre 2024, un jeudi bien sûr. Alors, on va essayer de vous accompagner avec quelques informations qu'on vous a ramassées à gauche et à droite. Bien sûr, des informations vérifiées. Et bien sûr, on se donne comme objectif, comme on l'a annoncé dès la semaine dernière, quand on a commencé ce rendez-vous-là, d'être autour et au cœur de la communauté montréalaise et tout particulièrement de la communauté nord-africaine ici au Québec. On parle beaucoup de l'immigration, on parle beaucoup des étudiants, on parle de limiter le nombre d'étudiants qui accèdent ici au Québec. Alors, le ministre, bien sûr, de l'immigration, a annoncé qu'il va légiférer pour limiter la venue d'étudiants étrangers. On écoute ce reportage.
Légiférer pour limiter la venue d'étudiants étrangers. Le gouvernement Legault intervient une nouvelle fois pour réduire le nombre de résidents non permanents qui se trouvent sur son territoire. Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, a présenté le projet de loi 74 jeudi matin sous les applaudissements d'usage des députés du gouvernement au Salon Rouge. Officiellement, la pièce législative de 12 pages, dont le dépôt avait été annoncé cet été, vise à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers. En conférence de presse, jeudi, M. Roberge a toutefois admis qu'il était certain que son application se traduira par une diminution du nombre d'admissions. Le projet de loi ne mentionne pas de plafond en particulier, mais il donne au gouvernement les outils nécessaires pour en imposer, au besoin. Ainsi, le texte prévoit un certain nombre de dispositions qui lui permettront de limiter le nombre de demandes faites par les étudiants étrangers en fonction de la région, du niveau d'études, de l'établissement d'enseignement ou encore du programme d'études. La langue d'enseignement sera prise en compte. Le dépôt du projet de loi 74 s'inscrit dans la volonté du gouvernement Legault de réduire, avec ou sans la collaboration du fédéral, le nombre de résidents non permanents qui s'installent au Québec. Le 20 août dernier, le premier ministre en personne avait déjà annoncé la suspension pour 6 mois du programme des travailleurs étrangers temporaires, TET, pour les emplois à bas salaire à Montréal. Il avait alors indiqué qu'un projet de loi serait déposé cet automne pour mieux encadrer la venue d'étudiants étrangers, là où il y a eu des abus. Le cabinet de la ministre de l'Enseignement, Pascal Derry, avait assuré ce jour-là que la pièce législative ne s'attaquerait pas spécifiquement aux établissements anglophones, soulignant qu'elle viserait plutôt l'ensemble des deux réseaux. Jeudi, son collègue Jean-François Roberge a toutefois confirmé que la langue d'enseignement fera partie des critères qui seront évalués par le gouvernement et qu'elle pourrait avoir un impact sur les plafonds qui seront imposés aux établissements une fois que le projet de loi sera adopté. Plus de 120 000 étudiants étrangers, c'est trop. Selon les plus récentes estimations de Statistique Canada, le Québec comptait au 30 septembre 2023 un peu plus de 588 000 immigrants temporaires, dont près de 124 000 titulaires de permis d'études. C'est trop, selon Jean-François Roberge, qui a souligné en conférence de presse que le nombre d'étudiants étrangers avait augmenté de 140% depuis 2014. Ni moi ni mes collègues ni l'ensemble du gouvernement ne voyons la présence d'étudiants étrangers comme un problème à régler, a-t-il assuré. Cependant, le très grand nombre d'étudiants étrangers peut poser problème, nous amène à nous poser des questions, et il y a des exemples, aussi, qui nous interpellent. Pour illustrer son propos, M. Roberge a notamment évoqué 2 dérapages récents, dont un établissement privé, qu'il n'a pas voulu nommer, où le nombre d'étudiants étrangers aurait augmenté de 1392% entre le 1er janvier 2023 et le 15 mai 2024. Depuis son entrée en fonction, le ministre discute avec son homologue fédéral, Marc Miller, pour le convaincre d'adopter des mesures pour endiguer l'arrivée massive d'immigrants temporaires au Québec. Son gouvernement demande notamment à Ottawa d'agir pour que le nombre de demandeurs d'asile qui se trouvent sur son territoire passe de 160 000 à 80 000 d'ici l'été prochain, quitte à rendre leur déménagement obligatoire.
Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc, en attendant. C'est pas marrant.
donnera à qui on veut. Ça ne se voit pas, mais je sais tout faire. J'ai 13 métiers et des misères, 14 misères. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc, en attendant, c'est pas marrant. C'est une étape, m'avait-on dit, c'est juste un rôle qu'il faut jouer, de la paperasse qu'il faut gérer. Faut de la patience pour s'insinuer, ainsi nuit et jour. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc, en attendant, c'est pas marrant. Dans les nuées, faut s'accrocher, même sur les bords, couché par terre, à Gare du Nord, encore et encore. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc, en attendant, c'est pas marrant. Travail en noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant? Travail en noir, mariage blanc, en attendant, c'est pas marrant.
Vous êtes toujours à l'écoute de Semazra FM Info, le retour à la maison. On continue tranquillement autour des nouvelles qu'on vous a ramassées pour aujourd'hui. On va parler de la violence.
Violence à l'école. Exact. Les employés de soutien lancent un SOS. Les actes de violence en milieu scolaire ont triplé en 3 ans, selon des données recueillies par la Centrale des syndicats du Québec, CSQ. Le problème n'est pas nouveau. L'an dernier, par exemple, la CNEST, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, avait déjà confirmé à Radio-Canada que le nombre de réclamations pour divers gestes de violence à l'endroit d'enseignants au primaire, coups, morsures, bousculades ou torsions, par exemple, avait triplé depuis 2018. Mais la plus récente compilation de la CSQ, Centrale des syndicats du Québec, rappelle que le phénomène touche également les employés de soutien qui, eux aussi, sont souvent en contact direct avec les élèves. Les chiffres recueillis par la centrale syndicale auprès de plusieurs dizaines de centres de services scolaires et de commissions scolaires sont éloquents. Le nombre d'incidents visant le personnel de soutien est passé de 4612 cas en 2020 à 2021 à 13464 cas en 2023 à 2024, une hausse de presque 200%. Je vous dirais que, depuis la pandémie, il y a eu une augmentation constante, confirme le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, FPSS, de la CSQ, Éric Pronovost, en entrevue. On sent une certaine irritabilité, autant des enfants que des parents et des collègues. L'éducation, c'est un milieu qui est sous haute tension. Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire de la CSQ, FPSS-CSQ. Les données recueillies montrent que la plupart des rapports d'incidents concernent des actes de violence physique, 80% des cas, posés par des élèves, 96,4% des cas, envers des techniciens en éducation spécialisée, 76,4% des cas, qui, par définition, sont appelés à travailler avec une clientèle plus à risque. Ces gens-là sont souvent aux premières lignes, sont souvent placés dans des situations où, quand ça se désorganise dans la classe, on voit des chaises être lancées, des gens se faire sauter dessus, se faire toucher les parties génitales, illustre M. Pronovost. Ce dernier insiste sur le fait que ses membres subissent aussi de la violence psychologique, du harcèlement et de la cyberintimidation. Aucun type d'emploi n'est épargné, souligne-t-il. Des surveillants reçoivent des coups en voulant mettre fin à des bagarres, des préposés aux élèves handicapés se font mordre, des secrétaires subissent de la violence verbale de la part de parents, et des éducatrices en service de garde se font littéralement cracher dessus. Pour remédier au problème, le président de la FPSS, Fédération du personnel de soutien scolaire, suggère notamment que des ressources additionnelles soient consacrées au suivi des rapports d'incidents, pour éviter que ceux-ci restent lettres mortes. Il propose aussi que le programme collégial en éducation spécialisée soit revu pour s'assurer qu'il répond encore aux besoins. Des données disparates. Les chiffres obtenus par la CSQ viennent appuyer les résultats d'un sondage mené plus tôt cette année par la firme Ad Hoc à la demande de la centrale, dans lequel 2 employés de soutien sur 5 disaient avoir subi de la violence dans le cadre de leur travail. Ce nouveau coup de sonde a été réalisé au moyen d'une demande d'accès à l'information transmise aux 72 organismes scolaires du Québec, 61 centres de services scolaires, 2 commissions scolaires à statut particulier et 9 commissions scolaires anglophones, pour la période allant de 2018 à 2019 à 2023 à 2024. Du lot, 22 organismes ont fourni des données complètes, 21 n'avaient que des données partielles à offrir, 18 n'avaient compilé aucune donnée à ce sujet, et 11 n'avaient pas répondu au moment de compiler les résultats. De quoi apporter de l'eau au moulin du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui a rappelé au Salon Rouge vendredi dernier que son plan de lutte contre la violence et l'intimidation prévoyait d'uniformiser la collecte d'informations dans les écoles afin de documenter plus précisément le sujet. Une nouvelle collecte de données doit d'ailleurs débuter le 15 novembre prochain, pour une durée de 2 semaines.
Toujours sur les sujets qu'on vous a choisis aujourd'hui, et là on va parler un petit peu, on a beaucoup parlé aussi, et c'est un peu d'actualité car il nous touche en plein fouet, c'est le recrutement des gangs criminels. Alors le Parti québécois arrive avec une proposition, on va écouter ce qu'on en dit sur cette proposition-là.
Le Parti québécois veut contrer le recrutement de jeunes par des gangs criminels. Le Parti québécois, PQ, demande la tenue d'une commission parlementaire sur la recrudescence de la violence armée et sur le recrutement de jeunes par des gangs criminels. Pour nous, il y a une situation urgente qui demande à ce qu'on en discute, a lancé le député péquiste Pascal Paradis en entrevue avec Radio-Canada. Le porte-parole du PQ, Parti québécois, en matière de sécurité publique souhaite entendre en commission parlementaire des experts, des policiers, des intervenants du monde de l'enseignement, des organismes impliqués dans la lutte contre la criminalité ainsi que des représentants de la protection de la jeunesse et de groupes communautaires. C'est important qu'on s'en parle, en entendant les gens qui sont sur le terrain de tous les milieux pour poser les bons constats et proposer de manière transpartisane des solutions à ce phénomène qu'on voit se dérouler dans nos rues, sous nos yeux. En raison du contexte actuel, le Parti québécois indique dans sa demande qu'il veut faire la lumière sur l'aggravation du phénomène des gangs criminels et sur leurs méthodes de recrutement de jeunes sur le territoire québécois. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Pascal Paradis, député de Jean Talon et porte-parole du Parti québécois en matière de sécurité publique. Bien que la violence armée soit préoccupante depuis plusieurs années, principalement dans la région montréalaise, elle s'étend maintenant à toutes les grandes villes du Québec et à de nombreuses régions, peut-on lire dans la demande du PQ déposée mercredi soir auprès du président de la Commission des institutions, André Bachand. Les événements qui changent la donne. La découverte du corps d'un adolescent de 14 ans en septembre dernier tout près du repère d'un club-école des Hells Angels, à Frampton, en Beauce, est un des facteurs qui pousse le PQ à vouloir s'attaquer à ce problème. Le jeune Mohamed Yanis Segwani aurait été associé à un gang de rue Viol de Saint-Léonard. Il avait fait le trajet jusqu'en Beauce en étant accompagné et était armé de fusils d'assaut de type AK-47. La situation aujourd'hui n'est pas la même que celle d'il y a 6 mois ou 1 an. On a vu une montée de ce phénomène-là. Et ce qu'on veut, c'est assurer le maintien du sentiment de sécurité, explique Pascal Paradis. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, s'était dit choqué le mois dernier par le fait que des gangs de rue enrôlent ainsi des jeunes, des enfants, pour faire le sale boulot. De plus, alors qu'une guerre pour le contrôle des stupéfiants secoue la grande région de Québec, le chef du service de police de la ville de Québec, SPVQ, Denis Turcotte, a admis la semaine dernière que les crimes sont de moins en moins prévisibles depuis que de jeunes adolescents sont recrutés par des gangs. Mardi, tous les députés de l'Assemblée nationale avaient adopté à l'unanimité une motion pour mobiliser tous les acteurs concernés afin de contrer la recrudescence de la violence armée et de prévenir l'aggravation du phénomène des gangs de rue. Le Parti québécois a officiellement déposé sa demande de mandat d'initiative pour la tenue d'une commission parlementaire à la Commission des institutions mercredi soir.
Pour rappel,
la communauté maghrébine de Montréal est encore sous le choc après la mort d'un adolescent de 14 ans, dont le corps a été retrouvé à Frampton près d'un local des Hells Angels. Inquiète du recrutement de jeunes par les gangs criminels et d'une hausse de la violence, plus d'une centaine de personnes se sont réunies samedi à Saint-Léonard pour réclamer une commission d'enquête et un changement au code criminel. L'organisatrice de ce rassemblement, Adjira Belkacem, tire la sonnette d'alarme, estimant que les parents doivent s'unir pour enrayer le recrutement des adolescents dans les écoles et dans les parcs montréalais. Ça commence à 12, 13, 14 ans. Les gangs de rue leur demandent de voler des voitures, d'aller tuer, ce genre de choses. Ils recrutent des enfants pour faire leur sale boulot, dénonce-t-elle. La guerre des gangs de rue et les adolescents qui en sont victimes représente une douleur que la communauté maghrébine ne peut plus supporter, ajoute Maître Nazar Sati, avocat bénévole à l'Association de la sépulture musulmane au Québec. Depuis 2019, on a enterré environ une quarantaine de jeunes dans notre communauté maghrébine. Maître Nazar Sati, avocat bénévole à l'Association de la sépulture musulmane au Québec. Le cas récent de Mohamed Yanis Segwani, 14 ans, résident de Saint-Léonard, a particulièrement mis en relief ce problème de recrutement chez les jeunes. Cet adolescent d'origine algérienne, qui aurait été associé à un gang de rue Viol de Saint-Léonard, a été retrouvé sans vie près d'un repère des Dark Souls, un club-école des Hells Angels, à Frampton, en Beauce. D'après nos informations, le jeune homme n'était pas seul, il était venu de Montréal et était armé de fusils d'assaut de type AK-47. Selon Mimoun Mohamed Nordine, coordonnateur du Forum Jeunesse de Saint-Michel, l'adolescent était victime d'intimidation à l'école, ce qui l'aurait incité à aller chercher de la protection auprès d'un gang. Il y a un vrai phénomène d'intimidation.
حوايج ما سنكيد نتو ذرت نتزمرت نانتي نوفكا
assurance vie, assurance maladie, assurance voyage.
تبغيض تسيوضض سنفر نتو سناغي وراويش
نار projet d'études pour enfants.
وين مقارن؟
REEE
صغض ناظر دخام صغض ناظر التكاروس أتقد شد غير يمانيك نغط صعيد ثقبانيت سيولتت يقداش وسنكيد هاني ظاهر أو اندينا ذي نسنكيد يكوني ولمن سومي قرزن غير وطن تليفون
4-8-8-7-8-0-1-2-1
4-3-8-8-7-8-1-6-1
النوتير أزاليس أم طبيب ماتر خالد العربي شريف نوتير إي كونسيي أثاي إلمن دنواني وكنا ونسبد إسوفار إلا قن ويتقدرن القانون أما لي تيستامون موندا دو بروتيكسيون كونترا دو مارياج كونترا مارس عمي خامل نوان نغ لكونترا تكوباني نوان ماتر خالد العربي شريف نوتير وزوفر دي سيرفيس جوريديك بروفيسيونيل ستقفيليس أما ذي البروينس نغ بار فيديو كونفرنس ماتر خالد العربي شريف سيول تاسر 545-21-78 54-545-21-78 نغروح الـ سيت وابينس www.notairklc.com السنة أسكوسن المحذران ثوهر القضاء
في سورة ماشي تكون وثني طفان ذكو خام نا ما زال نزدغ لحكام نتسليم وما زال نسلم فتل الليل ونتوذ غي حملا أمسا أنا في رشد الكردة
لهنا للذا ورسجي مركزي الفان أردوك شرار ذي للظان نقول أرفت الموسان أدفكو شجي الهان سكهو ذي الكلام ذقينا غنضا النظم زرامين غي خصم تنغم لي اسمت حسم تسرون وني تقسم زعمين تقدس مازيق نسلواي أذيني الشرى مولاي يصدي بغاتي النعقل أروح ثنوالي استعقل أزروا غرثة تفرير ولا يغر نجهان ولا يغر تفغى العقل يشبح يرسادك وستيم أخامي الكاسيس داخل مي غاضي كون نين أرغان أقلع نرغاس الباطل مي غاضي كون نين نهود أروح تنبنو ثاشي وتتشل نزوير سيراس
جنسوي محو أصلنا من الجنسية دير في بالك بلي ما نسيناش ما كان لها نسيي على بالي منين جيت وين راني رايح راعي طبق سياسة نقلع الديب الحمير قابلين حنا محريح وساكتين قدام الحقرة شوف شوف شو يصرى طفل صغير يمشي 20 كيلومتر باش يروح يقرا زرعت الجاهلية اليوم حصلت الفتنة لي جان حاصلين بين تجمعت القهوة يتفكروهم غير كي تلحق لور دابال هما بيهم الفيش دو باي هاد الشي صاير ماشي غير فشور تاع قبايل متاع كاع دزاير كيف تحارب هاد السيستم بلا ما تطيح في لي زيكستريم اللي حايبين دولة في دولة عديان احنا ما بيناش الفصل بين الاصل ولا شعلت عند ناسك الحقرة رجعت الصرف
Vous êtes toujours à l'écoute de Femmes Rêves Femmes Info, le petit retour à la maison tranquillement sur les nouvelles, bien sûr, de Montréal et autour de la communauté, au cœur de la communauté nord-africaine. On continue un petit peu, on est rendu à la nouvelle culturelle. Alors, comme vous savez, toute la planète, en quelque sorte, tous ceux qui aiment les livres, qui aiment la littérature et qui sont curieux. Attendent ce jour, eh ben, c'est l'annonce du prix Nobel de la littérature. Il a été décerné ce jeudi à l'autrice sud-coréenne Han Kang, qui est âgée de 53 ans. Première sud-coréenne à remporter la récompense en littérature. Je rappelle que Han Kang, qui écrit poèmes, nouvelles et romans en coréen, a été récompensée pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine, a expliqué le jury dans un communiqué. Parallèlement à la littérature, il s'est consacré à l'art et à la musique, ce qui a reflété dans l'ensemble de sa production littéraire. Et oui, c'est le retour du sport à Roi canadien. Ben oui, le Canadien qui est... Ben la saison a commencé, c'était hier. Et on va faire un petit tour. Qu'est-ce qui s'est passé hier au Centre Bell?
Assistant coaches, Roger Grillo, Eric Raymond, Stéphane Robida, Trevor Lutoski. Entraîneur-chef, head coach... Martin Saint-Louis. un duel Maple Leafs canadien pour amorcer la saison. Bonne saison, on se souhaite de très belles surprises. À Kirby Dock, il y a des changements apportés par les Canadiens. Dock avance. Dock attend la partie de Kirby. Arrête Stolarz au défense du pied. Stolarz qui trouve cette rondelle. Et là, on envoie la première unité. Matheson Altis sur les places. Envoie pour Kirby Dock. Il y a de la place. La part. Le premier but appartient à Cole Caulfield.
Bien, pour ceux qui s'inquiétaient davantage numérique, eh bien là, à leur premier match, on trouve le fond du filet. C'est le mouvement rapide de cette rondelle. C'est ça qui permet à déjouer une défensive. Regardez, il n'y a personne qui est parvenu à placer un gardien de but en retard sur ce déplacement. Le tir est parfait également. Le fait que Caulfield soulève cette rondelle.
30 secondes à faire à la période. McCabe retient son geste, tire de loin, la rondelle qui rate la cible. Timmons ensuite devant le circuit. L'envoi est excellent. Les Leafs obtiennent de bonnes chances de marquer. Regardez, des rondelles amenées en fond de territoire et c'est pas évident de contrôler ces retours. Pas d'espace pour les Maple Leafs. Gail Cooley passe pour Anderson. Anderson pour barrer Cooley. Attention à Dvorak. La passe retourne à Fredetti. Et puis l'arrêt de Stolarz. Laisse en retrait pour McKay. Tire de loin. La rondelle coquée. Le retour devant. Et Ekman Larson reçoit. Au point d'appui. Le tir de match. L'arrêt. Montambeau. Très solide. Tenez que... Il y a deux, trois périodes de jouer, il y a des choses encourageantes. Elle tire l'arrêt et le retour est raté. Montambeau qui s'illustre à nouveau. Ça va en arrière le filet. La rondelle vers Matheson. Il veut dégager. Ça frappe de Vorak. 5 secondes à faire. Le tir, l'arrêt. Montambeau, excellent. On revient à Riley. Devant. Parfait. Les Canadiens sublimes. Ils gagnent le premier match.
Et voilà, c'était hier, les Canadiens qui... le Canadien qui blanchit les Maple Leafs en ouverture de la saison. Et espérons qu'ils vont continuer sur cette lancée. Hein. Avec ça, on arrive à la fin de cette édition du jeudi 10 octobre 2024 de Samazra FM Info, le retour autour et au cœur de la communauté nord-africaine sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Alors on se donne rendez-vous lundi.
Señorita, je t'adore. Señorita, je t'adore. Señorita, je t'adore.